Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais évoquer aujourd'hui une personnalité extraordinaire, une vie complexe, dense, parsemée de drames et de grandes réjouissances. Je veux parler de la vie de Victor Hugo.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands boissons. Sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands boisseaux. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Victor Hugo est né à Besançon le 7 Ventose an 10, traduction le 26 février 1802, et il est mort en 1885, donc déjà à un âge plus que respectable pour l'époque, pour le 19e siècle. Il est mort, il était pair de France, académicien, et pourtant au début, à sa naissance, les gens qui avaient accouché sa mère, Sophie Trébuchet, pensaient que l'enfant, le bébé, ne vivrait pas longtemps. Et puis, il a déjoué tous les pronostics et il a vécu une vie assez extraordinaire. Notons qu'il était fils de général, tout comme son exact contemporain, Alexandre Dumas d'ailleurs. Et puis, Très vite, Victor Hugo a décidé qu'il serait écrivain. À 14 ans, il a déclaré « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est amusant parce que aujourd'hui, si on interroge les gens, il est certain que Victor Hugo est beaucoup plus connu qu'Alphonse de Chateaubriand. Et très, très jeune, il va tomber amoureux. Amoureux d'une jeune fille à peu près de son âge, Adèle Fouché. Et il va rester fidèle jusqu'au mariage à ce choix qu'il a fait. Et Adèle Fouché, qui avait des talents de dessinatrice et de peintre, on a des tableaux peints par elle, va devenir sa compagne, son épouse. Citons au passage que Victor Hugo avait un frère, Eugène. Et ce frère Eugène est mort fou. On ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec une des filles de Victor Hugo qui a passé 40 ans dans un asile d'aliénés, Adèle. Et Adèle, l'épouse de Victor, la mère, donc de cette petite Adèle, va connaître 5 maternités. Sur ces 5 maternités, plusieurs donneront naissance à des enfants remarquables dans leur genre. Le premier mérite de Victor Hugo, peut-être, enfin, celui que l'histoire littéraire reconnaîtra, il va imposer en France une nouvelle école, le romantisme. En 1830, Victor Hugo a 28 ans. C'est un coup de tonnerre sur la scène française. On joue Hernani. Alors, beaucoup de contemporains ont raconté la première d'Hernani. Il paraît qu'il y avait dans la salle un tel tumulte que personne n'entendait rien de la pièce. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Théophile Gautier était férocement pour et enguirlandait les crânes chauves qui étaient contre. Il faut dire qu'aujourd'hui, le théâtre n'est plus le lieu où de telles batailles peuvent s'engager. Notons au passage que Hernani, en 1830, a été un scandale énorme. 2 ans avant, Alexandre Dumas avait fait représenter Antony, qui, dans son style, est déjà une pièce romantique, mais c'est Victor Hugo qui a remporté toutes les adhésions.
Rappelez-vous notre douce vie lorsque nous étions si jeunes tous deux et que nous n'avions au cœur d'autre envie que d'être bien mis et d'être amoureux. Lorsqu'en ajoutant votre âge à mon âge, nous ne comptions pas à 2 40 ans et que dans notre humble et petit ménage, tout, même l'hiver, nous était printemps. Bonjour, Manuel était fier et sage. Paris s'asseyait à de saints banquets. Foi lançait la foudre et votre corps sage avait une épingle où je me piquais. la Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin. C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du tendre au pays latin. J'irais avec toi, pressant ton bras souple, les passants croyaient que l'amour charmé avait marié dans notre heureux couple le doux mois d'avril au beau mois de mai. Je les entendais dire est-elle belle, comme elle sent bon, quels cheveux à flot. Sous son mantelet, elle cache une aile, son bonnet charmant est à peine éclos. Je t'obéissais, tu m'étais soumise au grenier doré, te lasser, te voir aller et venir dès l'aube en chemise, mirant ton front jeune à ton vieux miroir. Et qui donc pourrait perdre la mémoire de ces temps d'aurore et de firmament, de rubans, de fleurs, de gaz et de moire, où l'amour bégait un argot charmant. Aux places Maubert, aux places Dauphine, quand dans le taudis frais et printanier, tu tirais ton bas sur ta jambe fine, je voyais un astre au fond du grenier. Et ces grands malheurs qui nous faisaient rire, ton manchon brûlé, ton boa perdu, et ce cher portrait du divin Shakespeare qu'un soir pour souper nous avons vendu. Te rappelles-tu nos bonheurs sans nombre et tous ces fichus changés en chiffons? Oh, que de soupirs dans nos cœurs pleins d'ombre se sont envolés dans les cieux profonds. Bonjour, Manuel était fier et sage, Paris s'asseyait à de saints banquets, voix lançait la foudre et votre coq sage avait une épingle où je me piquais.
Il va continuer dans la voie théâtrale avec des pièces dont certaines n'ont pas eu autant de succès, mais par exemple Lucrèce Borgia en 1833. Mais une pièce aura un énorme succès, c'est Ruy Blas en 1838. Parallèlement à cette activité de dramaturge, de poète qui écrit pour le théâtre, Victor Hugo fait paraître des recueils de poèmes qui auront également beaucoup de succès. On peut citer les Feuilles d'automne en 1831, les Contemplations en 1856, et ce vaste poème épique que l'on peut toujours relire avec autant de plaisir, y compris le plaisir de la découverte à notre époque, hein, presque 200 ans après, La Légende des siècles. Mais Victor Hugo va peu à peu devenir un écrivain populaire, un romancier dont tout le monde va connaître les œuvres. Tout d'abord avec Notre-Dame de Paris en 1831. Notre-Dame de Paris, c'est un peu la Bible la Bible des gens qui aiment les romans. Notre-Dame de Paris a été adaptée, je ne sais combien de fois, au cinéma. Dès 1923, aux États-Unis, Wallace Wattles la met en scène avec Lon Chaney dans le rôle de Quasimodo. ce bossu, le bossu de Notre-Dame, fou amoureux de la belle Esmeralda, et qui finira par la rejoindre dans la mort. Peut-être plus connu, en 1956, un film de Jean Delannoy, avec Gina Lollobrigida dans le rôle de Esmeralda et Anthony Quinn dans celui de Quasimodo. Signalons au passage dans ce film un très très court rôle interprété par le poète Boris Vian. Il y avait eu au temps du mur en 1905 la Esmeralda par une réalisatrice dont on évalue aujourd'hui un peu mieux l'importance, Alice Guy. Mais il y aura aussi Le Bossu de Notre-Dame par Walt Disney en 1997. Il y aura un film qui va prendre carrément le rôle de Quasimodo comme titre. Le film s'appelle Quasimodo. C'est un film de William Dieterle en 1939 avec le plus extraordinaire Quasimodo de l'écran, Charles Laughton, et dans le rôle d'Esmeralda, Maureen O'Hara. Alors, bien sûr, Notre-Dame de Paris, c'est un livre que tout le monde pratiquement a en mémoire, avec la belle Esmeralda, avec son amoureux celui qu'elle aime, qui ne fait pas attention à elle, et avec l'extraordinaire Quasimodo.
S'il est un charmant gazon que le ciel arrose, où brillant toute saison quelques fleurs écloses, où l'on cueille à pleine main lys, chèvrefeuille et jasmin, j'en veux faire le chemin où ton pied se pose. S'il est un saint bien aimant dont l'honneur dispose, dont le ferme dévouement n'est rien de morose, si toujours ce noble saint bat pour un digne dessein, j'en veux faire le coussin où ton front se pose. S'il est un rêve d'amour parfumé de rose, où l'on trouve chaque jour quelque douce chose, un rêve que Dieu bénit, où l'âme s'unit, oh, j'en veux faire le nid où ton cœur se pose. S'il est un charmant gazon que le ciel arrose, où brillant toute saison quelques fleurs écloses, où l'on cueille à pleine main lys, chèvrefeuille et jasmin, j'en veux faire le chemin où ton pied se pose. La, 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 la.
En 1862, un autre grand roman de Victor Hugo va être imprimé. Il s'agit des Misérables, avec ces personnages qui sont rentrés dans la mémoire collective. Avec Jean Valjean, avec la petite Cosette, avec le couple des Thénardier, avec Fantine, la mère de Cosette, et puis cet évêque qui va, sans peut-être le savoir, influencer toute la vie future de Jean Valjean, Monseigneur Myriel. Alors, tous ces personnages qui font partie de notre passé, on les retrouve dans un nombre incroyable de films. Alors, au hasard, pas tout à fait, mais en 1911, c'est un film muet d'Albert Capellani avec Henri Krauss dans le rôle de Jean Valjean, Miss Tinguette dans le rôle d'Éponine, une des filles des Thénardier, et Marie Ventura dans le rôle de Cosette. En 1925, c'est un film d'Henri Fescourt avec Gabriel Gabriot et Sandra Milovanov. En 1933, beaucoup plus visible aujourd'hui, c'est un film de Raymond Bernard avec Harry Bord dans le rôle de Jean Valjean, Charles Vanel dans le rôle du policier qui est acharné à poursuivre Jean Valjean et qui, sauvé par ce dernier, finira par se suicider parce qu'il ne peut plus songer à l'arrêter. Dans ce film de Raymond Bernard, on trouve aussi Florel dans le rôle de Fantine, la superbe Marguerite Moreno dans le rôle de la Thénardier. Et ce qui est amusant, c'est que dans la distribution, on retrouve le comédien Henri Krauss dans le rôle de Monseigneur Myriel. Henri Krauss, qui en 1911 avait incarné Jean Valjean. Et puis, dans le rôle de Thénardier, Charles Dullin, extraordinaire acteur, qui, pour moment, atteint au sublime. En 1935, c'est un film américain de Boleslavski avec Frédéric March dans le rôle de Jean Valjean et Charlton dans le rôle de Javert. Plus proche de nous, et sans doute beaucoup d'entre vous l'ont-ils vu, en 1957, c'est un film de Jean-Paul de Chanois avec Jean Gabin, Daniel Delorme, Bernard Blier, Bourville, Fernand Ledoux. Enfin, encore plus proche de nous, en 1982, un film de Robert Hossein avec Lino Ventura, Michel Bouquet dans le rôle de Javert, Jean Carmet, Thénardier, François Seignier, la Thénardier, et Louis Seignier, qui jouera le rôle de Monseigneur Myriel. Enfin, et sans doute n'est-ce pas le dernier, en 1995, un film de Claude Lelouch. Je vous propose une pause musicale.
Proscrit regarde les roses, mais joyeux de l'aube en pleurs, les reçoit toutes écloses. Proscrit regarde les fleurs, je pense aux roses que je semais. Le mois de mai sans la France, ce n'est pas le mois de mai. Proscrit regarde les tombes, mais qui rit aux cieux si beaux, sous les baisers des colombes, fait palpiter les tombeaux. Je pense aux yeux chers que je fermais, le mois de mai, sans la France, ce n'est pas le mois de mai. Proscrit, regarde les branches où sont les nids, mais les remplis d'ailes blanches et de soupirs infinis. Je pense au nid charmant où j'aimais le mois de mai sans la France, ce n'est pas le mois de mai. Proscrit, regarde les roses, mais joyeux de l'aube en pleurs, les reçoit toutes écloses. Proscrit, regarde les fleurs, je pense aux roses que je semais. Le mois de mai sans la France, ce n'est pas le mois de le mois de mai sans la France, ce n'est pas le mois de mai.
Mais Victor Hugo ne se contente pas d'écrire des romans, d'écrire des poèmes qui se vendent fort bien d'ailleurs. Il est aussi un dessinateur extraordinaire. On peut voir certains de ses dessins au musée Victor Hugo, place du Palais Royal à Paris. Il n'a jamais publié ses dessins, mais ce sont des dessins à l'encre ou la vie, et des dessins où le rêve, le cauchemar ont une part extraordinaire. Si jamais vous avez l'occasion de visiter ce musée de Victor Hugo à Paris, ne manquez pas cette occasion qui vous est offerte de découvrir les dessins de Victor Hugo. Mais pendant ce temps-là, la roue de l'histoire tourne. Et c'est l'arrivée au pouvoir du président Napoléon III qui va, par un coup d'État en 1852, devenir empereur des Français. Et ça, Victor Hugo ne l'accepte pas. Il refuse ce régime, cette dictature, comme il l'appelle, et il va choisir de s'exiler. Pendant près de 20 ans, il va quitter la France. Il va se réfugier dans les îles anglo-saxonnes. D'abord Jersey, puis Guernesey. Et il va poursuivre son action contre ce président devenu empereur. Il va écrire un pamphlet qui aura un succès énorme qui s'appelle Napoléon le Petit. En même temps, il va écrire contre la peine de mort. C'était un des premiers écrivains à écrire contre la peine de mort, avec notamment Le dernier jour d'un condamné. Il reviendra à Paris après le désastre de Sedan et la fuite de l'empereur Napoléon III. Et en 1885, il aura droit à des funérailles nationales avant que son cercueil repose au Panthéon. Il aura écrit aussi contre Napoléon III « Histoire d'un crime ». Qu'en est-il de la vie amoureuse, plutôt agitée, plutôt trop fournie que pas assez, de Victor Hugo. Victor Hugo, ses parents ne s'entendaient pas. Sa mère a eu une aventure avec le général Lahoury. Et Adèle Hugo, la femme de Victor, aura elle aussi une aventure. Oh, pas forcément très passionnelle, mais suffisamment pour que Victor Hugo se sente libéré de ses devoirs dits conjugaux. Il va connaître quand même une exceptionnelle histoire d'amour qui va durer plus de 50 ans. Avec une comédienne qui s'appelle Juliette Drouet, qui va lui rester attachée jusqu'à la mort.
Qui donc êtes-vous, la belle? Comment vous appelez-vous? Une vierge était chez nous, ses yeux étaient ses bijoux. Je suis la vierge, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous êtes en blanc, la belle, comment vous appelez-vous? En gardant les grandes roues, Claude lui fit les yeux doux. Je suis la fille, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous portez des fleurs, la belle, comment vous appelez-vous? Les vents et les cœurs sont fous, un baiser les fit époux. Je suis l'amante, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous avez pleuré, la belle, comment vous appelez-vous? Elle eut un fils, prions tous, Dieu le prit sur ses genoux. Je suis la mère, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous êtes pâle, la belle, comment vous appelez-vous? Elle s'enfuit dans les trous, sinistre avec les hiboux. Je suis la folle, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous avez bien froid, la belle, comment vous appelez-vous? Les amours et les yeux doux de nos cercueils sont les clous. Je suis la morte, dit-elle, cueillez la branche de houx.
Disons deux mots des enfants de Victor Hugo. Adèle, une de ses filles, devient amoureuse d'un militaire anglais qui l'ignore, et elle sombre dans la folie. Elle passera presque toute sa vie dans un asile. Signalons au passage que François Truffaut en a fait un film, et Adèle H, pour Adèle Hugo, y est incarnée par Isabelle Adjani. C'est amusant. C'est intéressant de voir que deux des plus gros rôles d'Isabelle Adjani sont des rôles d'amoureuse qui se terminent dans un asile d'aliénés. Par exemple, l'autre exemple étant celui de Camille Claudel. Alors, parmi ceux qui, les enfants qui ont compté pour lui, il faut évoquer Léopoldine. Léopoldine, elle se marie en 1843 avec Charles Vacquerie et elle meurt noyée. Alors, je vous propose simplement, pour montrer l'attachement de Victor Hugo à sa fille, ces poèmes écrits à la mort de Léopoldine. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. C'est un des plus beaux poèmes d'amour filial que je connaisse. Et puis, citons aussi, parmi les enfants de Victor Hugo, l'un d'eux qui a eu une importance considérable à son époque, c'est François-Victor Hugo, qui a traduit et adapté complètement tout le théâtre de Shakespeare. Une œuvre considérable dont certains considèrent qu'elle a vieilli, pas tellement finalement. Si vous avez l'occasion, regardez un peu ces traductions que François-Victor Hugo, fils de Victor Hugo, a faites de Shakespeare. Et pour conclure sur une note plus réjouissante sans doute, on ne connaissait pas les lettres écrites par Juliette Drouet à Victor Hugo. On les a retrouvées, elles ont été publiées, 16 000 lettres écrites au cours des 50 années de la passion qu'il a unie à Victor Hugo. Finalement, un des hommes peut-être les plus aimés de son siècle. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit, sera comme la nuit. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Loin de toi plus longtemps. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers un fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, et de bruyères en fleurs.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.